8h et une poignée de secondes sur France Inter. Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. À la une de l'actualité, l'émotion nationale dans le monde maritime après la disparition des trois sauveteurs des Sables-d'Olonne. Trois sauveteurs distingués à titre posthume par le chef de l'État. Dans l'actualité également, l'hémorragie dans certains partis politiques suite au résultat des élections européennes. Après le départ de Valérie Pécresse des Républicains, c'est Charlotte Girard, l'une des figures de la France insoumise, qui a décidé de quitter le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Du théâtre à la fin de ce journal avec un bourgeois gentilhomme en comédie ballet, mise en scène par Jérôme Deschamps à Montpellier. Avant le sport et la déculottée des Français hier soir en Turquie, en phase éliminatoire de l'Euro 2020 de football. Rendez-vous à 8h10 dans le journal des sports présenté par Laetitia Bernard où il sera également question de tennis et de rugby. Enfin à 8h20, place à un grand nom de la chanson, Éric Delvaux.
Oh oui, avec plaisir, Maxime Le Forestier, son dernier album, Paraître ou ne pas être, vient de sortir. Interview et extraits musicaux donc dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Tandis que les questions demeurent sur les raisons qui ont poussé ce pêcheur à la retraite à prendre la mer vendredi, en dépit d'un avis de tempête diffusé par Météo France, l'émotion s'étend à tout le monde marin après la mort de trois des sauveteurs de la SNSM des Sables-d'Olonne. Émotion renforcée par le récit poignant hier des rescapés du naufrage. Une émotion palpable sur le stand des sauveteurs en mer de l'Armada à Rouen, comme a pu le constater Théophile Pedrola de France Bleu Normandie. Les visiteurs ont tenu à témoigner de leur solidarité plus que d'habitude.
Le petit stand des sauveteurs en mer est pris d'assaut. Chantal vient d'acheter un t-shirt par solidarité, dit-elle. Son père est décédé par noyade à Rouen quand elle avait 5 ans.
Ça marque à vie puisque l'eau m'attire, mais j'ai peur de l'eau. Je conseille à tout le monde d'aider les sauveteurs en mer, les encourager, penser à eux.
Émotion également parmi les sauveteurs. Marie-France Lozet est derrière le stand, veuve d'un ancien bénévole de la SNSM.
C'est triste, hein, c'est vraiment... Ça perturbe tout le monde, quoi. Ça nous choque. La SNSM, c'est une grande famille, donc... Que ce soit moi ou d'autres, je crois qu'on est tous touchés.
Les marques d'affection et les dons ont afflué toute la journée. Philippe Valtou est délégué de la SNSM en Seine-Maritime.
Je pense que c'est lié bien sûr à l'émotion et à l'événement. Il y en a certains qui nous disent un petit mot sympathique, qui nous adressent leurs condoléances, et puis d'autres qui sont peut-être moins à l'aise dans le discours et qui traduisent cette émotion par l'achat d'un petit goodies ou d'un livre ou d'un t-shirt.
Avant la fin de journée, il fallait penser à réapprovisionner le stock de casquettes, de livres ou d'autocollants, victimes de leur triste succès.
Théophile Pedrola de France Bleu, Haute-Normandie. Les trois sauveteurs décédés ont été nommés à titre posthume chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur par le président de la République. Le marin-pêcheur que certains de ces sauveteurs justement connaissaient n'a lui toujours pas été retrouvé. Une marche silencieuse est d'ores et déjà prévue lundi dans la station balnéaire.
L'une des figures et cadres de la France insoumise, Charlotte Girard, a décidé de quitter le mouvement de Jean-Luc Mélenchon.
À l'exception des écologistes de La République En Marche et du Rassemblement National, cela ne va pas très fort dans les partis politiques en ce moment. Depuis les dernières élections européennes, c'est notamment le cas au sein du parti La France Insoumise, alors qu'une intervention de Jean-Luc Mélenchon est toujours attendue après le faible score réalisé par son parti à ce scrutin. Après les critiques pour le moins vives sur la ligne du parti adressée dernièrement par la députée Clémentine Autain, voilà que l'une des figures du mouvement, dont elle était la coordinatrice d'ailleurs, Charlotte Girard, publie à son tour une lettre de rupture indiquant qu'elle a décidé de quitter La France Insoumise, lui reprochant une désorganisation, un manque de débat et une stratégie électoraliste dangereuse. Laurence Perron.
Les mots sont durs, inefficacité qui se confond avec un manque de démocratie, désorganisation, directives brouillées, des invectives, là où il y aurait dû y avoir de l'explication. Charlotte Girard signe une lettre de rupture avec la froideur clinique de ceux qui savent qu'il n'y aura pas de retour possible. La question de ma mise en retrait n'est plus posée, c'est un fait acquis, écrit l'intellectuel qui avait refusé l'été dernier de figurer comme tête de liste européenne. J'ai donné tout ce que je pouvais tant que je pensais que l'outil, le mouvement, était conforme au but de la révolution citoyenne. Elle reproche à Jean-Luc Mélenchon d'avoir privilégié le groupe parlementaire et l'électoralisme au détriment du travail sur le terrain. La colère des Gilets jaunes, que la France insoumise n'a pas su conscientiser, elle parle de cet écart entre le monde militant, institutionnel et le peuple. La jonction ne s'est pas faite, dit-elle. Comme le fonctionnement n'est pas remis en question, comme on persévère dans une ambition de sauvetage à court terme, je préfère me libérer. Concluant par ce vers du poète espagnol Antonio Machado, je n'ai jamais cherché la gloire.
De De leur côté, 72 maires et élus locaux de droite et du centre rassemblés sous la houlette du maire d'Angers, Christophe Béchu, ex-LR, co-signe sur le site internet du journal du dimanche une tribune dans laquelle ils appellent à soutenir le gouvernement et de fait Emmanuel Macron, tribune qui intervient une semaine après la démission de Laurent Wauquiez. Nous y revenons dans le journal de 9h.
Il ne fait pas bon être journaliste en Russie et encore moins journaliste d'investigation.
C'est le constat que peut faire aujourd'hui Ivan Golunov, enquêtant sur une affaire de corruption au sein de la mairie de Moscou. Il a été arrêté jeudi et inculpé pour trafic de drogue. Il a depuis été libéré sous contrôle judiciaire et assigné hier à résidence. Une maigre satisfaction pour ses proches qui le disent victime d'un coup monté et dénoncent des passages à tabac en prison. Moscou, Léo Vidal-Giraud.
Si l'annonce du placement en résidence surveillée du journaliste Ivan Golunov a réjoui tous ses soutiens, c'est aussi parce qu'elle était inespérée. Ce n'est pas la première fois qu'en Russie, la police s'attaque à des journalistes ou à des activistes issus de la société civile. Par exemple, Oyub Titiev, le représentant de l'association Mémorial en Tchétchénie, qui a été condamné au mois de mars à 4 ans de prison pour trafic de drogue. Ou encore hier, un journaliste russe employé dans une agence de presse qui racontait avoir retrouvé de la cocaïne dans son sac à dos après un simple contrôle de police. Bref, quand un journaliste, un blogueur ou un activiste dérange, rien de plus facile pour un fonctionnaire ou un entrepreneur corrompu que de lancer la police à ses trousses. Et en effet, les porosités à tous les niveaux, entre l'administration, les milieux d'affaires et ceux que l'on nomme les siloviki, les hommes des forces, armée, police, services de sécurité, un clan qui est omniprésent à tous les étages de l'État russe. En tout cas, pour Ivan Golunov, la bataille judiciaire ne fait que commencer. La date de son procès a été fixée au 7 août, et avec un taux de condamnation supérieur à 99%, la justice russe est l'une des plus sévères du monde. Moscou, Léo Vidal-Giraud, France Inter.
À l'étranger, encore en bref, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Venise pour demander l'interdiction du passage des grands navires dans la célèbre lagune.
Autre manifestation, celles qui se sont déroulées hier à l'occasion de la journée mondiale des océans.
Environ 2000 personnes ont ainsi défilé hier après-midi dans les rues de la capitale, répondant à l'appel d'une vingtaine d'associations à l'occasion de cette journée mondiale. L'occasion de rappeler des chiffres alarmants, comme ces 13 millions de tonnes de plastique déversées dans les océans, responsables de la mort d'1 million d'oiseaux et de 100 000 animaux marins. Et ce ne sont pas là les seuls chiffres sources d'inquiétude pour l'une des manifestantes, Antidia Citores, porte-parole de l'association Soft Rider Europe, qu'a rencontré Adjira Mohamed.
Des chiffres alarmants, hélas, il y en a beaucoup trop. Il faut savoir que, par exemple, 1000 espèces faunes marines sont retrouvées avec des fragments de plastique dans leur corps. C'est un premier chiffre. On a plus de 3% des émissions de gaz à effet de serre liées au transport qui viennent du transport maritime. Et pour l'instant, il n'est pas du tout régulé. Il y a juste un engagement à faire quelque chose d'ici à 2050. Les actions concrètes qu'on souhaite de la part du gouvernement, mais pas seulement notre gouvernement français, il y a le G7 à Biarritz au mois d'août. Nous, notre objectif, c'est vraiment que l'océan soit à l'agenda. Et dans ce cadre-là, qu'il y ait des engagements sur la question du plastique, sur la question du transport maritime, sur la question du climat et de la recherche scientifique, puisqu'on connaît beaucoup mieux l'espace qu'on connaît l'océan. Et si on veut trouver des solutions, si on veut prévenir à la source, il va falloir le connaître beaucoup mieux.
Autre manifestation hier également, celle contre la maltraitance animale à l'appel de l'association L214. Près de 3000 personnes se sont rassemblées pour demander la fermeture de tous les abattoirs. Et puis 30e samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes, mobilisation estimée entre 10 000 personnes pour toute la France selon le ministère de l'Intérieur, le double pour les organisateurs, manifestations qui ont dégénéré à Montpellier, épicentre du mouvement, mais aussi à Dijon. Allez, dans un tout autre domaine, du théâtre pour refermer ce journal. Nous allons prendre sans gilet jaune la direction de Montpellier où le printemps des comédiens s'est ouvert ce week-end avec la pièce de Molière, Le bourgeois gentilhomme, mise en scène par Jérôme Deschamps. Une comédie ballet dans laquelle l'inventeur de la famille Deschiens a même tenu à incarner le rôle de Monsieur Jourdain. Une véritable performance pour ce metteur en scène aujourd'hui âgé de 71 ans. Une performance suivie par Stéphane Capron.
3 heures sur scène, dans un rôle éprouvant, avec des habits qui pèsent près de 10 kilos, Jérôme Deschamps réalise une vraie prouesse. Il se voit revenir 60 ans en arrière lorsqu'il a eu envie de devenir comédien en découvrant à la Comédie Française cette pièce de Molière.
J'avais 7 ou 8 ans et mon grand-père nous a emmenés en matinée. Et là, j'ai vu le bourgeois gentilhomme avec Louis Seignier, avec Georges Chamara. Et là, j'ai découvert une partie du bonheur, une partie du paradis, parce que j'étais enchanté par les rires, le bonheur que ça déclenchait dans la salle. Et ça m'a marqué définitivement.
Jérôme Deschamps a donc choisi de présenter la version intégrale avec tous les passages musicaux et chantés. Il nage dans le bonheur, comme son personnage.
Monsieur Jourdain, il est au paradis, depuis le début de la pièce jusqu'à la fin. Il est vraiment Mamamouchi. Je pense que Monsieur Jourdain, ou plutôt le public comme Monsieur Jourdain, doit partager son rêve.
La mise en scène de Jérôme Deschamps est truculente, avec beaucoup de clins d'œil aux Deschiens qui l'ont rendu populaire. Les costumes et les perruques dans des couleurs pétaradantes donnent à cette farce un relief lumineux. Jérôme Deschamps ne se ménage pas sur scène et s'impose en digne héritier de Molière.
Voilà, et pour couronner le tout, cette musique de Lully interprétée par les musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski. Dernière représentation de ce bourgeois gentilhomme à 15h cet après-midi à l'Opéra Comédie de Montpellier dans le cadre du Printemps des Comédiens, un festival France Inter, faut-il le rappeler, Eric Delvaux.